la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, la réquisition des logements vacants, l'encadrement des loyers et le logement social décrypté par la députée de Paris Danielle Simonet. Alors que la trêve hivernale s'est achevée le 31 mars, la députée parisienne Danielle Simonet du groupe politique L'Après, écologiste et social, vient de déposer une loi pour forcer l'État à réquisitionner les logements vacants. Elle y dénonce une situation alarmante et l'inaction de l'État. Elle a justement déposé début avril une PPL, une proposition de loi visant à contraindre les préfets à utiliser leurs droits de réquisition sur les logements vacants pour loger les ménages les plus précaires. Le constat dressé par la parlementaire est édifiant. Les expulsions ont enregistré une augmentation de 60% en 2 ans et de 500% en 25 ans. En 2025, ce sont exactement 30 500 personnes qui ont été expulsées avec le concours de la force publique. Une situation aggravée, selon Danielle Simonet, par des lois successives qui fragilisent les locataires, comme la loi Kasbarian de 2023. Au cœur de ces explications se trouve, d'après elle, la loi sur le droit au logement opposable, DALO, votée en 2007. Ce texte oblige l'État à garantir une solution de logement aux personnes reconnues comme prioritaires par une commission de médiation. Or, près de 20 ans après sa promulgation, nous dit-elle, cette obligation légale reste largement lettre morte. Face à l'inefficacité des astreintes financières déjà prononcées par la justice à l'encontre de l'État, la proposition de loi de Danielle Simonet entend créer un mécanisme contraignant. Le texte propose de modifier le code de la construction et de l'habitation pour permettre au juge administratif, lorsqu'il est saisi par un ménage prioritaire DALO, d'ordonner directement au préfet de procéder à la réquisition d'un local vacant. Écoutons Danielle Simonet, députée de Paris, et ancienne cadre de Jean-Luc Mélenchon chez LFI et auteur de la proposition de loi pour forcer l'État à réquisitionner les logements vacants.
Mon inquiétude, c'est que on a pu adopter une loi en première lecture, extrêmement importante, sur laquelle d'ailleurs tous les groupes de gauche se sont retrouvés pour pouvoir poursuivre l'expérimentation, parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas une nouvelle loi qui est votée, l'expérimentation s'arrête, il n'y a plus d'encadrement des loyers. Et des gens, par exemple, à Paris, peuvent perdre en moyenne 150 euros par mois, parce que les loyers, ils reprendront de plus belle leur hausse spéculative. Bon. Et donc, on attend du gouvernement qu'il permette une adoption accélérée, parce que s'il faut attendre les niches des groupes au Sénat, puis que ça repasse dans les niches des groupes à l'Assemblée, ça risque d'être hors délai. Donc ça, c'est important. Moi, j'avais mené une bataille sur cet encadrement des loyers pour que vraiment tous les baux soient concernés. Parce qu'on voit bien que les grands propriétaires, les multipropriétaires, ils cherchent toujours à biaiser l'encadrement des loyers. Ils avaient développé le Airbnb pour sortir de l'encadrement des loyers. Et puis, il y a eu des bonnes lois qui ont été adoptées, une bataille qui a été gagnée pour être beaucoup plus stricte sur le Airbnb. Maintenant, ils essaient de développer, par exemple, le co-living. On sait aussi qu'ils veulent essayer d'exploiter les baux civils. Donc moi, j'avais fait un amendement pour bien expliquer que tous les baux, y compris baux civils, co-living, doivent respecter l'encadrement des loyers. Ça, ça me semble important. Et je salue le combat mené par la ville de Paris parce que là, c'est l'équivalent, en fait, d'une vraie police du logement qui est en train de se renforcer. Une brigade qui fait que on va lutter contre la vacance, on va lutter contre les hausses de loyers qui ne respectent pas l'encadrement, en mettant aussi des fonctionnaires à disposition pour défendre les intérêts des Parisiens locataires.
Donc pour vous, la taxe, la TVH, est une très bonne idée de 30% la première année et 60% la seconde.
Alors oui, ça c'est une très bonne mesure également, qui vise en fait à lutter contre la vacance pour résidence secondaire. Il faut se rendre compte qu'il y a environ 8000 logements chaque année à Paris qui sortent du parc locatif privé pour devenir des résidences secondaires. Et c'est pour ça qu'en ce moment, si vous cherchez une petite annonce à Paris pour avoir accès à un logement, vous allez très peu en avoir. Parce qu'il y a une explosion du nombre de résidences secondaires. C'est pas un problème propre à Paris. C'est valable dans toutes les grandes villes, et il se dirait même dans toutes les grandes villes d'Europe, voire du monde. Et les Canadiens, par exemple, sont allés très loin sur le sujet, puisque eux, ils ont instauré une taxe équivalente à 1% de la valeur patrimoniale du logement. En cas de résidence secondaire, c'est une taxe d'1% de la valeur chaque année à payer. Et finalement, ça veut dire que les gens se disent vaut mieux que je mette en location ou en vente, et ça redevient de la location, et que je me paye un hôtel quand je passe, parce que sinon ça me revient trop cher d'avoir un logement en résidence secondaire. Et du coup, ça permet que des résidences secondaires redeviennent des logements en résidence principale pour les locataires qui en ont besoin.
Autre sujet au Conseil de Paris, la création d'une brigade, d'après vous. Il y a eu beaucoup de débats mardi matin, de chahut même. Qu'en pensez-vous ? Il fallait le faire ?
Alors, j'ai pas pu suivre les chahuts du Conseil de Paris parce que j'ai beaucoup à faire à l'Assemblée nationale et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pour le mandat unique. Moi, je pense que c'est vraiment important et ça va dans le bon sens. C'est bien de mettre en place des fonctionnaires qui vont vérifier, contrôler. Je veux dire, c'est une infraction. Je veux dire, c'est ne pas respecter la loi sur l'encadrement des loyers. Eh bien, c'est de la délinquance. Voilà, c'est les multipropriétaires délinquants qui préfèrent penser à leur propre profit au mépris de l'intérêt des habitants. Et je vous donne aussi un autre exemple. Barnes, par exemple, c'est un grand groupe hein, qui, au niveau de l'immobilier, et notamment le milieu du luxe, essaye toujours de protéger ses profits maximum et essaye de contourner les lois. Et ils essayent d'exploiter les baux civils pour sortir en fait du bail locataire qui le contraint à l'encadrement des loyers. Et ben c'est injuste, voilà, et c'est inacceptable. Et d'ailleurs, la répression des fraudes va s'attaquer à ce problème-là. Ben, c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose qu'on ait une brigade à la ville de Paris qui va vérifier s'il y a des délinquants hors de la loi qui surexploitent leur logement à l'encontre des intérêts des habitants, des locataires.
En sachant que vous comprenez que c'est pour les acteurs professionnels difficile en ce moment de faire face au contexte de résidence secondaire. Le contexte économique est de plus en plus difficile.
Eh bien, en fait, pendant trop longtemps, on a considéré, à tort j'estime, que le logement était un produit financier sur l'étal d'un banquier et qu'on pouvait en dégager un profit maximum et que c'était finalement un très bon taux de rendement. En fait, le logement, il faut rendre au logement son usage premier, loger des gens. Et loger des gens de façon abordable, hein, avec des loyers accessibles et des logements qui sont en bon état. Et donc, les multipropriétaires, parce que c'est quand même surtout des multipropriétaires, hein, faut savoir que 50% du parc locatif en France appartient à 3,5% des propriétaires. Hein, bon. Eh bien, ils ne peuvent pas se faire des profits sans limite. Et qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a l'encadrement des loyers, c'est pour ça qu'il y a la taxation des logements vacants, et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres mesures qu'on doit mettre en place pour lutter contre la crise du logement.
Autre sujet que vous suivez de près, les réquisitions, pouvez-vous nous en dire plus ?
Ben, on a une loi qui permet la réquisition des immeubles vacants, des logements vacants, des bureaux vacants. Mais en fait, dans la loi, seuls les préfets peuvent la mettre en application. Or, les préfets ne le font pas. Il n'y a pas eu de réquisition depuis extrêmement longtemps. Or, il y a énormément de logements vides. Il y a 2,6 millions de logements vides en France pour 356 000 personnes en situation de crise absolue au niveau du logement, donc on comprend bien que il y aurait quand même matière à faire. Et donc moi je défends le fait qu'il faut permettre aux maires d'acquérir cette compétence en matière de réquisition. D'abord, je pense qu'ils pourraient l'utiliser de manière dissuasive, c'est-à-dire de dire à leur propriétaire, bah écoutez, remettez en location, parce que si ça continue à être vacant, moi je vais le réquisitionner. Donc déjà ça peut aider à ce que des propriétaires remettent en location. Si vraiment le propriétaire a une difficulté pour que son logement il réponde aux normes DPE, eh bien à ce moment-là, il peut faire appel à la collectivité. La collectivité peut très bien prendre en charge financièrement les travaux par le biais d'une réquisition. Le propriétaire perçoit un loyer, mais auquel on soustrait l'amortissement de ses travaux. Et selon l'importance des travaux, ça peut être une réquisition pour 1 an, pour 6 ans, pour 12 ans. Voilà ce que prévoit la loi. Mais laissons cette compétence aux communes pour qu'elles puissent, en fonction des problématiques locales, faire en sorte qu'on n'ait pas cette absurdité avec des logements vacants d'un côté et des gens qui se retrouvent sans logement de l'autre.
Dernier sujet que vous suivez de très près, c'est les expulsions locatives. Concrètement, où en est-on de ce que vous savez du côté du gouvernement ? Qu'est-ce que vous proposez comme député et comme parlementaire ?
Alors déjà, il faut regarder la réalité en face, c'est catastrophique. On a une hausse de 60% en 2 ans des expulsions locatives. Je ne sais pas si vous rendez compte des détresses totales qu'il y a derrière, des vies humaines brisées, des enfants qui se retrouvent traumatisés par ce jour où la police est venue et les a fait sortir du logement où ils ont perdu et tout, et où ils se sont retrouvés à dormir dans une voiture ou à être ballottés chez des voisins ou pire encore à se retrouver à ne pas savoir où passer la nuit à l'abri. Donc c'est dramatique. Il y a un coût humain, un coût médical, un coût psychologique, psychiatrique, un coût aussi en termes d'échec scolaire pour les enfants. Donc il faut tout faire pour lutter contre les expulsions locatives.
Enfants et étudiants.
Exactement. Mais en fait, le gouvernement fait tout pour augmenter les expulsions locatives. Donc, il porte une très lourde responsabilité. D'abord, il porte une porte lourde responsabilité parce que l'augmentation de la précarité, c'est le résultat de sa politique, mais aussi parce que c'est les lois Kasbarian qui ont facilité les procédures d'expulsion locative. Il faut faire l'inverse de ce que fait le gouvernement. Moi, je défends l'instauration, enfin, la création d'une sécurité sociale du logement pour mettre en place une garantie universelle des loyers. Comment ça fonctionne ? J'ai beaucoup travaillé avec la CNL là-dessus. Et la CNL a même sorti un très bon livre à ce sujet. En fait, la sécurité sociale du logement, le principe, c'est le même que celui de la sécurité sociale issue du Conseil national de la résistance hein, de 1945. L'idée, c'est les propriétaires mettent un pot commun, les locataires mettent un pot commun, et avec ce pot commun, eh bien, on garantit que les propriétaires ne perdent pas le loyer en cas d'impayé de loyer par le locataire, et le locataire n'est pas expulsé dès ses premiers impayés de loyer. Mais on se donne du temps pour pouvoir accompagner les gens et voir, en fonction de leur bonne foi, tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour empêcher l'expulsion locative, mais la prise en compte, la compréhension des périodes d'accident de la vie qui fait que bah, si vous divorcez, si vous perdez votre travail, eh bien, vous pouvez être dans une situation où les premiers mois, vous n'arrivez pas à régler votre loyer. Et donc, on vous accompagne dans un dispositif d'accompagnement pour vous permettre de pouvoir sortir la tête de l'eau sans passer par la case expulsion. Et surtout, en même temps, parallèlement, rassurer aussi les propriétaires qui vont pas du jour au lendemain perdre les revenus de leur location.
Pour conclure, est-ce que d'après vous, le gouvernement soutient assez le logement social, suffisamment ?
Bien sûr que non. Vous savez, le logement social à chaque budget est l'objet d'une ponction très dure contre les bailleurs sociaux à travers la RLS, hein, la réduction de loyer de solidarité. Alors, ça a été un peu moins violent. Enfin, on en vient à se satisfaire des baisses des ponctions, qui restent quand même des ponctions terribles. Donc, le logement social va mal dans ce pays. Les bailleurs sont quand même pris à la gorge. On encourage les bailleurs à privatiser, à vendre leur logement, ce qui est quand même une aberration. Donc non, l'orientation politique des gouvernements successifs en matière de logement sous la Macronie, ça ne va pas du tout.
Et dans le prochain PLF, croyez-vous justement
Bien, je crains que la bataille continue toujours dans le prochain PLF. Hein. Moi, j'oublie pas que la première mesure de Macron, au tout début de son premier mandat, ça a été quand même de faire les poches des locataires en supprimant en faisant des baisses des APL. Alors que par ailleurs, ils faisaient des cadeaux sur l'impôt sur la fortune. Bon, et l'impôt sur la fortune, ben, c'est souvent ceux qui ont le plus de patrimoine et qui sont des grands multipropriétaires qui n'ont. Hein. Donc non, il faut une politique radicalement différente. Il faut que dans le prochain PLF, si on veut répondre à l'intérêt général, qu'il y ait des moyens alloués aide à la pierre pour qu'on puisse reproduire du logement social, qu'il y ait des moyens pour la réhabilitation thermique du logement social. C'est un enjeu écologique et social. Et qu'il y ait des moyens qui soient alloués pour voir que chacun ait accès à un logement. Ça doit être un droit constitutionnel, les droits au logement, qui devrait l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement.
Cette proposition de loi de Daniel Simonet s'appuie sur un paradoxe français. Alors que la crise du logement s'intensifie, le pays compte 2,4 millions de logements vacants depuis plus d'un an et 10 millions de mètres carrés de bureaux vides. Rappelons-nous que le droit de réquisition, instauré par une ordonnance du général de Gaulle en 1945, permet à l'État de mobiliser temporairement ses biens inoccupés pour loger des personnes sans abri, moyennant une indemnisation pour le propriétaire. Cet outil a été utilisé pour la dernière fois de manière significative en 1995 sous Jacques Chirac, puis en 2001 par l'ancienne ministre du Logement Marie-Noëlle Lienemann. Pour la députée parisienne Danielle Simonet, il est aujourd'hui impératif de le réactiver pour que l'État, je cite, sorte de l'illégalité et respecte enfin ses obligations légales.
À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.